Et le journal est présenté par Véronique Robéreux. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Hervé. Le texte a enfin été publié au journal officiel un an que l'on attendait. La programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, élaborée par le gouvernement. Document sensible puisqu'il décline les objectifs de la loi sur la transition énergétique et décide de la place du nucléaire en France à l'avenir. Seule la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim y sont actés. Il faudra en fermer une vingtaine d'autres. Ce sera EDF d'approfondir le travail, dossier suivi par Mathias Kern. De Calais à Paris, depuis le démantèlement de la jungle, de Calais les tentes, igloos, on fait le réapparition en masse dans le nord de la capitale, inquiétude des associations qui ne peuvent que constater cet afflux. Reportage dans ce journal de Boris Salier. À l'étranger, nous irons au Venezuela, en grève générale depuis ce matin. En Irak aussi, où la bataille de Mossoul se retourne contre les civils. 8000 familles auraient été prises en otage et utilisées actuellement comme boucliers humains. Et puis à la fin de ce journal, nous irons en Antarctique. Un accord vient d'être signé pour sanctuariser la mer de Ross. 1,5 million de kilomètres carrés préservés, enfin presque. Le texte était donc attendu depuis une bonne année. Il a été publié ce matin au journal officiel. On connaît enfin la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, élaborée donc par le gouvernement. Le document doit décliner les objectifs donc de la loi sur la transition énergétique jusqu'en 2023 et décider de la place du nucléaire dans notre mix énergétique. On comprend mieux en quoi le document est sensible. Mathias Kern, bonsoir.
Bonsoir.
Tellement sensible que cette programmation pluriannuelle de l'énergie ne prend pas de décision justement en matière d'énergie nucléaire, laissant le soin à EDF d'établir plus tard un plan stratégique compatible avec la promesse de François Hollande, ramener en 2025 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité.
Oui, justement, ce chiffre, c'est le seul objectif du texte, avec une précision importante, cette réduction de 75% à 50%, peut être révisée à l'avenir. Ce n'est donc pas un engagement durable, en tout cas, pas jusqu'à peut-être de 2025. Alors, le gouvernement renvoie le dossier, vous l'avez dit, directement à EDF. Pour Anne Bringot, il continue de faire l'autruche sur le sujet du nucléaire. Elle est coordinatrice pour le CLER et le réseau Action Climat.
Il faut à un moment donné mettre autour de la table les acteurs, les syndicats, les entreprises, les collectivités, pour pouvoir effectivement réfléchir à une transition du nucléaire qui coûte de plus en plus cher et qui est de plus en plus vieillissant vers l'efficacité énergétique et les renouvelables. Donc simplement cette transition des métiers du passé vers les métiers du futur, le gouvernement n'a jamais pris la peine de l'organiser. Le marché actuellement de l'électricité, quand nos réacteurs ne sont pas trop en anomalie, on a un marché qui est en surcapacité, c'est-à-dire qu'on a trop de centrales en France, comme c'est le cas dans d'autres pays européens. Et donc, il est important de faire de la place. Si on se fixe des objectifs de renouvelables sans fermer d'anciennes centrales, on sait très bien que ces nouvelles sources de production renouvelables ne seront pas mises en place parce qu'il y aura des freins à leur développement.
Faire de la place, réduire le nombre de réacteurs, on sait combien le sujet est délicat en termes d'impact social. Et puis, vu les difficultés financières de la filière aussi, les problèmes techniques, plusieurs réacteurs sont mis à l'arrêt cette année après des anomalies.
Alors, la question reste entière, comment dans ces conditions faire grimper la part du renouvelable si on ne réduit pas la part du nucléaire?
Eh bien, c'est ce que tente de faire malgré tout le gouvernement, mais on a du mal à imaginer le modèle énergétique de demain. Le président du syndicat des énergies renouvelables, Jean-Louis Ball, à son idée, on est d'abord obligé de miser justement sur ces alternatives si un jour on veut se passer de nucléaire.
C'est vrai qu'il va se poser des questions de compatibilité entre le développement des énergies renouvelables et le maintien du parc nucléaire. Et je pense que ce sont les questions économiques qui vont trancher. Et le renouvelable, aujourd'hui, il est vraiment extrêmement compétitif avec la baisse des prix à la fois de l'éolien, mais surtout du solaire.
Pour nous, le grand avantage de cette programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est qu'elle nous permet de voir jusqu'en 2023, puisqu'on a donc, pour toutes les filières énergie renouvelable, des objectifs qui sont assez ambitieux, avec une trajectoire réaliste qui est bien déterminée, avec un point de passage en 2018 et un point final en 2023.
Et l'objectif affiché par le texte est de porter la part de ces énergies renouvelables à 32% de notre consommation en 2030.
Merci Mathias. La Cour administrative d'appel de Lyon en faveur d'une annulation des arrêtés autorisant la construction d'une Center Park de Roibon dans l'Isère. Le magistrat, dont l'avis est généralement suivi, demande ainsi la confirmation du juge jugement du tribunal administratif de Grenoble en date de juillet 2015, jugement qui avait annulé l'arrêté préfectoral d'Illoy-sur-Lot indispensable à la construction du village vacances. Le projet de Center Park de Roibon, lancé en 2017, est vivement contesté. Il prévoit la construction d'un millier de bungalows, de commerces et de restaurants construits autour de l'Aquamundo, une bulle transparente avec piscine et jacuzzi maintenue à une température de 29 degrés toute l'année. Il s'agit de lutter contre une concurrence déloyale face à la multiplication des locations par des particuliers, par exemple d'appartements sur des plateformes collaboratives comme Airbnb. Les députés ont finalement approuvé le principe de faire payer des cotisations sociales aux particuliers louant des biens via ces plateformes au-delà d'un certain seuil de revenus. L'article, un temps supprimé, a fait l'objet bien d'une nouvelle délibération hier à la demande du gouvernement. L'Assemblée considère, Viviane Le Guen, que les particuliers loueurs sont des professionnels.
Oui, obligation de s'affilier au RSI, le régime social des indépendants, et de payer les cotisations sociales qui vont avec pour les particuliers qui perçoivent donc plus de 23 000 euros par an en louant leur logement sur une plateforme type Airbnb. Et pour ceux aussi qui touchent plus de 7 720 euros annuels en louant des biens type voiture ou bateau. Alors, difficile d'évaluer combien de personnes cela concerne précisément. Les plateformes internet de location rechignent à communiquer sur ce sujet. Airbnb, par exemple. Pour Airbnb, les quelques chiffres dont on dispose sont ceux d'un site ouvert par des universitaires américains qui se sont procurés les données de la société. On y apprend notamment que sur les 55 723 logements proposés par le site à Paris, 20% sont proposés par des multipropriétaires. Alors c'est d'abord eux que cette nouvelle disposition concerne. Patrick, par exemple, il vit à Nîmes et depuis deux ans, il loue deux chambres et un appartement sur Airbnb. Ça lui rapporte en moyenne 2000 euros bruts par mois, des revenus qu'il déclare chaque année au fisc au moment de remplir sa déclaration. Là, il est tout simplement scandalisé par cette nouvelle mesure.
On fera en sorte, même si on est affilié, de n'avoir à rien payer. Voilà. Donc, de demander aux gens de vous payer de la main à la main ou d'en déclarer le moins possible, de ne pas payer par carte, de ne pas payer par chèque. Je ne payerai pas deux fois.
Voilà. Voilà qu'une partie de l'activité bascule au noir. C'est ce que redoutent les opposants à la mesure. Des députés de droite, du centre, mais aussi des écologistes. Ils craignent également que cela porte un coup d'arrêt au développement des jeunes entreprises créatives et high-tech du secteur. Tout cela, disent-ils, pour satisfaire des lobbies professionnels qui dénoncent une concurrence déloyale.
Merci Viviane. Un petit rebond de troisième trimestre, toujours bon à prendre. L'économie française est légèrement repartie de l'avant. Une progression de 0,2% entre juillet et septembre 2016, selon l'INSEE. Timide croissance immédiatement commentée par François Hollande pour qui la France est, je cite, sur un sentier de croissance, même si elle est encore trop faible. De Calais à Paris, depuis le démantèlement de la jungle de Calais, les tentes igloos ont fait leur réapparition en masse dans le nord de la capitale. Une trentaine d'ailleurs de migrants ont été emmenés vers une annexe de la préfecture de police aujourd'hui suite à un contrôle de police. Notre reporter Boris Allier s'est rendu lui avenue de Flandre dans le 19e arrondissement de Paris lors d'une distribution de nourriture où les associations font le constat d'afflux de migrants donc à Paris ces derniers jours et elles s'inquiètent. Reportage.
Il y aurait près de 3000 migrants aujourd'hui dans le quartier Stalingrad. Sur le terrain, les associations sont formelles. La situation s'aggrave depuis plusieurs jours et la distribution des repas est de plus en plus fastidieuse.
On est obligé de demander aux bouchers de l'aide. Ils nous donnent de temps en temps deux moutons et un cuit. Mais sinon, il nous faut des dons.
Une longue file d'attente se forme sur le terre-plein central de l'avenue de Flandre, parmi les tentes installées le long de la route.
Et on va faire des sandwichs, d'accord.
Charles Dranet, de l'ONG ADRA, tente d'organiser tant bien que mal la distribution.
Je pense que depuis 4-5 jours, nous avons beaucoup plus d'affluence ici par rapport au nombre de repas que nous distribuons. Parce que chaque jour, nous faisons à peu près 800 repas. Et depuis 4 jours, nous sommes déjà arrivés à plus de 1000. Et là, il y a des gens qui viennent de Calais. Ces messieurs qui sont là, les deux jeunes qui sont là, ils viennent de Calais. Ils me l'ont dit tout à l'heure.
Certains viennent effectivement d'arriver, d'autres dorment dehors depuis plusieurs semaines. C'est le cas de ce Somalien, il est passé par l'Italie et il est arrivé dans le 19e arrondissement de Paris au début du mois.
On attend que le gouvernement prenne une décision pour nous. On veut juste avoir un toit. Personne ne devrait avoir cette vie.
Pour éviter ces campements en pleine rue, la mairie de Paris a lancé la construction de deux centres d'accueil d'urgence. L'un porte de la Chapelle, qui doit ouvrir dans deux semaines. L'autre à Ivry-sur-Seine, qui ouvrira plus tard, fin décembre. Bruno Julliard, premier adjoint à la maire de Paris.
L'idée est que les réfugiés, lorsqu'ils arrivent à Paris, se rendent dans un de ces deux centres d'accueil. Et ça prendra une semaine, 10 jours. Le temps nécessaire pour trouver des places d'accueil dans des centres un peu partout en France, qui permettra comme ça de mieux réguler le flux des réfugiés qui arriveront à Paris.
À eux deux, ces centres d'urgence pourront accueillir près de 1000 personnes, ce qui reste insuffisant pour certaines associations.
Le chiffre est donné aujourd'hui par l'Organisation internationale pour les migrations dans le monde. Ce sont à ce jour 5238 migrants qui ont perdu la vie depuis le début de l'année. Parmi eux, eh bien, ce sont plus de 3900 personnes qui ont péri en tentant de traverser la Méditerranée en bateau. Grève reconduite à Itélé. Les salariés d'Itélé ont décidé à 83% des voix de reconduire leur grève jusqu'à lundi midi, troisième semaine de conflit. Les grévistes de la chaîne d'info de Vincent Bolloré demandent toujours entre autres le départ de l'animateur Jean-Marc Morandini et de meilleures conditions aussi pour ceux qui voudraient partir. L'augmentation de 40% hier du salaire minimum pour tenter de calmer la grogne n'y a rien fait. Le geste du président vénézuélien Nicolas Maduro a relativisé dans un pays, le Venezuela, l'inflation galopante. Ce geste n'a pas dissuadé l'opposition de maintenir aujourd'hui son appel à la grève générale. Le Venezuela vit l'une des pires crises économiques de son histoire, la faute à la chute des cours du pétrole. Les opposants demandent en tout cas le départ du président Maduro. Ce dernier menace, lui, de faire intervenir l'armée dans les usines qui participent aujourd'hui à la grève. Nadine Epstein a pu joindre sur place Milos Alcalais, il est conseiller international auprès du maire de Caracas.
C'est une grève civile, une grève générale dans laquelle la ville de Caracas est vide, ainsi que les grandes villes de l'intérieur du pays. Après la position du gouvernement d'annuler le référendum, l'Assemblée nationale a réuni tous les différents secteurs du pays, les travailleurs, les hommes d'entreprise, les étudiants, pour mener une route qui puisse souligner la rupture de la constitution vénézuélienne.
Est-ce que cette grève générale a des chances d'être suivie et quels sont les risques de l'intervention de l'armée?
Effectivement, le gouvernement avait menacé d'intervenir avec les militaires pour confisquer toutes les entreprises qui n'ouvrent aujourd'hui, pour établir toute une série de persécutions aux gens qui suivent la grève. Mais c'est un peu lutter contre le vide, parce que c'est pas une grève d'entreprise, c'est pas une grève des travailleurs, c'est une grève partielle de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures de l'après-midi, et ça a réussi, parce que la ville et les villes du Venezuela sont victimes. Hier, des milliers de Vénézuéliens qui ont été dans la rue hier, aujourd'hui, c'est la même ville, mais vide. Les gens sont dans leur maison.
Et pour l'instant, l'armée n'intervient pas.
L'entreprise Polar, qui est une des grandes entreprises d'alimentation, était entourée par des gens de l'intelligence militaire. La maison de plusieurs entrepreneurs, parmi eux, Lorenzo Mendoza, a été menacé d'être intervenu. Mais c'est un peu comme lutter contre l'air. C'est très difficile de saisir quand c'est toute la population qui suit cette grève générale et qu'il est pour le gouvernement, malgré les menaces, impossible d'arrêter cette manifestation de rejet à l'action du gouvernement.
Le chef de l'État, lui, a essayé de neutraliser la grogne avant cette grève générale en annonçant une augmentation de 40% du salaire minimum. Est-ce que ça peut avoir un impact?
Oui, c'est à nouveau une mesure désespérée, ne résoudre pas les problèmes de la crise humanitaire que nous vivons aujourd'hui.
Le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada va pouvoir être signé. Le Parlement de la région belge francophone de Wallonie a finalement voté en sa faveur cet après-midi. Son opposition menaçait de faire capoter l'ensemble de l'opération. Le pire était à craindre. Il se produit lors de la bataille de Mossoul en Irak. Au moins 230 personnes auraient été massacrées par le groupe État islamique tout près de Mossoul la semaine dernière. Selon les Nations Unies, 8000 familles seraient aussi prises en otage, actuellement utilisées comme boucliers humains. L'objectif des djihadistes est de dissuader les frappes aériennes de la coalition internationale qui soutient les forces irakiennes et kurdes, lancées donc à la reconquête de leur dernier grand bastion urbain dans le nord de l'Irak, Mossoul. Ces informations des Nations Unies ne sont pas vraiment surprenante. Philippe Rendet, notre envoyé spécial sur place.
Ça n'étonne personne. Par contre, personne ne veut ou ne peut le confirmer, tout simplement parce que la ville de Mossoul est une forteresse encerclée, assiégée. Les journalistes et les forces de sécurité n'y entrent pas. Mais nous avons croisé depuis plus de 10 jours quelques civils qui ont réussi à quitter Mossoul. Précieux et courageux témoignages que ceux de ces hommes qui expliquent que, effectivement, depuis quelques semaines, les djihadistes deviennent de plus en plus sévères, de plus en plus paranoïaques. Ils ont peur que la population se retourne contre eux. Un homme qui était encore dans la capitale autoproclamée du califat il y a une semaine nous a clairement dit qu'il a vu de ses propres yeux des exécutions de civils trop désobéissants. Un autre nous a expliqué que les djihadistes étaient en train de se raser la barbe pour se fondre dans la population, qu'ils utiliseront comme bouclier humain. Le bouclier humain, arme que le groupe État islamique espère fatale. Nous avons passé la journée aujourd'hui avec les forces spéciales irakiennes dans leur base à 5 km seulement de Mossoul. Et le porte-parole des forces spéciales nous l'a dit, l'évacuation des civils, le sort des 1,5 million de civils sera la principale difficulté de cette bataille. Alors certes, les forces spéciales sont préparées à ce cas de figure, ce n'est pas un secret, hein, c'est encore moins une tactique surprise des djihadistes, mais la tâche sera ardue et je peux vous dire que les réunions se multiplient sur les différents fronts en ce moment pour se coordonner avant d'entrer dans Mossoul.
Objectif, briser le siège d'Alep. Les rebelles syriens ont lancé ce matin une offensive pour tenter de mettre fin au siège imposé par le régime de Bachar el-Assad au quartier d'Alep que les insurgés contrôlent. Une offensive d'envergure à l'issue bien incertaine. Valérie Krova.
Un officier russe avait prévenu la semaine dernière, les forces rebelles sont en train de se regrouper. Ce n'est donc pas à proprement parler une surprise. Plusieurs factions se sont alliées pour lancer cette offensive qui se déroule à la lisière ouest d'Alep. Des combats à l'artillerie lourde ont été signalés sur un front qui s'étend sur 15 kilomètres. Ils sont 1500 combattants armés, essentiellement du Fatah al-Sham, l'ancien front al-Nosra, et des rebelles qui se battent sous la bannière de l'armée syrienne libre, venus en renfort de la province d'Alep et d'Idlib, située à 60 km au nord. Leur objectif, disent-ils, est de reconquérir la partie ouest d'Alep contrôlée par le gouvernement de Damas et de mettre fin au siège qui est imposé depuis juillet par l'armée syrienne sur la partie est de la ville où vivent plusieurs dizaines de milliers de personnes. En août dernier, les mêmes rebelles, aidés par des djihadistes, avaient brisé temporairement le siège d'Alep en attaquant le couloir de Ramousseh dans sa périphérie sud. Les bombardements de l'aviation russe avaient permis à l'armée syrienne de reprendre le contrôle de cette zone au bout d'un mois.
On part en Antarctique. S'il le pouvait, les pingouins, les manchots se frotteraient les mains après des années de négociations. Un accord vient d'être trouvé, signé en Australie ce matin sur la création d'un vaste sanctuaire marin en Antarctique. La Russie, dernier pays à s'y opposer, a finalement rallié le projet porté par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Cette zone protégée dans la mer de Ross, une baie immense située côté Pacifique, s'étendra sur une superficie de 1,5 million de kilomètres carrés. La mer de Ross, surnommée parfois le dernier océan, est considéré comme le dernier écosystème marin à peu près intact de la planète, c'est-à-dire non touché par la pollution, la surpêche ou les espaces invasifs. C'est plutôt une bonne nouvelle à première vue, donc, selon Lamia Essemlali, mais à nuancer, elle est porte-parole de l'ONG Sea Shepherd France. Elle a été jointe au téléphone par Valentine Letès.
C'est un écosystème qui est resté relativement pur, mais je dis bien relativement parce qu'on y trouve quand même des traces de pollution. Pendant nos campagnes sur place, on y a trouvé même des brosses à dents ou des objets de la vie de tous les jours. Donc même si c'est un endroit qui est reculé, c'est un endroit qui reste vulnérable à la pollution de manière globale. Ce qui est essentiel justement, c'est de préserver cet endroit afin de mieux le connaître, protéger sa faune qui est particulièrement fragile, notamment des espèces qui sont peu connues ou moins emblématiques que les baleines. Par exemple, la légine australe, qui est un poisson des grands fonds avec une longévité extrêmement importante, donc très fragile et très vulnérable à la pêche industrielle. Le problème, c'est que avec toutes les espèces qui composent l'écosystème de l'Antarctique, on peut considérer que la baleine, c'est quand même celle qui a le plus gros capital sympathie. Et aujourd'hui encore, des centaines de baleines meurent harponnées dans le sanctuaire baleinier antarctique, quasiment en toute impunité, puisque la seule force d'intervention sur place, finalement, c'est Sea Shepherd. Et c'est là qu'on reste quand même assez dubitatif par rapport à la création de ce sanctuaire, qui, sur le papier, est une excellente chose, mais mais qui doit être accompagné d'une vraie volonté politique et économique pour faire respecter les interdictions de pêche et de chasse, ce qu'aujourd'hui, on n'a pas.
On laisse une minute pour parler du temps de demain, samedi. Ça va aller, oui. Samedi 29 octobre, du soleil partout, avec des nuages parfois, mais de bonnes températures pour la saison. Température maximale comprise entre 17 et 21 degrés. Ce sera pareil dimanche. Ce sera mieux encore lundi si vous êtes en week-end prolongé ou même en vacances.